Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Allô, allô. La direction rappelle aux spectateurs qu'ils doivent s'abstenir de manifester de quelque manière que ce soit pendant la projection des actualités. Des mesures très sévères seront prises contre tout spectateur dont l'attitude constituerait même un commencement de manifestation.
Signe des temps, voici que vos cheveux, mesdames, que vos cheveux, messieurs, vont servir maintenant à fabriquer vos vêtements. Dégraissés et séchés à présent lavage, les cheveux rendus floconneux sont mélangés à une très petite quantité de fibrane. Le mélange est cardé et se présente alors sous l'aspect de mèches qui sont tordues pour fournir des fils de toute grosseur. Il ne s'agit plus que de tisser à l'aide de ces fils l'étoffe d'un nouveau genre que nous allons connaître. C'est ainsi que vous porterez, madame, des gants et des chaussons de cheveux. C'est ainsi que votre pullover, monsieur, pourra être fait des cheveux de votre bien-aimé.
Salut tout le monde et bienvenue à vous pour cette balade à la recherche du potager de l'occupation. À l'instant, des actualités françaises de 1942. À l'époque, la France est occupée et pillée par les nazis. Tissus, cuir, chaussures, allumettes, chauffage, médicaments, les Français manquent de tout et pas seulement de nourriture. C'est pour évoquer cette période de privation que vous avez rendez-vous avec notre prof d'histoire géo, Cédric Delaunay. Salut Cédric.
Salut.
Vous voilà au potager de la Gloriette à Tours, en région centre. C'est un pays de fleuves et de maraîchage, un endroit parfait pour parler de ces jardins que les habitants de la France occupée cultivèrent pour tenter de subvenir un peu à leurs énormes besoins en nourriture. Recréer un jardin de l'occupation, un projet mené par Cédric avec l'ONAC, l'Office National des Anciens Combattants, le Musée de la Résistance et de la Déportation de Blois et bien sûr les jardiniers de la Gloriette et la ville de Tours.
On a essayé de mêler plusieurs idées. La première idée, c'était de s'intéresser au quotidien des Français pendant la guerre. C'est vrai qu'on fait souvent de l'événementiel, les grands événements, les grandes dates, les opérations géostratégiques, enfin une histoire vue un peu d'au-dessus. Et là, l'idée était de partir d'en bas, de voir la France d'en bas, comme dirait l'autre. La France au quotidien et les difficultés des Français au quotidien, dont la première a été bien sûr l'approvisionnement. De l'autre côté, c'était l'idée de le rapprocher aussi des enfants d'aujourd'hui, dont on critique souvent leur manque de connaissance des fruits, légumes, animaux et poissons carrés avec les yeux dans les coins. L'idée était de leur faire découvrir des légumes, des fruits de l'époque, une éducation à la nourriture et de voir comment en période de pénurie, leurs lointains ancêtres, comment ils ont dû faire hein, pour pallier au manque. Aujourd'hui, on vit aussi une époque de pénurie pour d'autres raisons, mais pénurie, cherté des légumes, des produits, voir un petit peu comment on peut faire pour se nourrir à pas cher et puis découvrir de nouveaux goûts. Voilà.
J'ai des rythmes en essence, j'ai des swings 100%. Ça m'agrippe, ça me chippe, 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 chippe. Quand j'étais toute gamine, pour imiter la sourdine, je me bouchais les narines. Billy, 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 ouais, ouais, j'ai du rythme, j'ai du swing, j'ai le rythme des dancing. Dans la peau, j'ai que ça magique, je me trémousse. Au moindre bruit, quel malheur. Mon corps se transforme en moteur. Je ressens mille secousses. Et pour rassurer, tranquilliser tous les passants, je dis l'air joyeux tout en me disant bouchonnant. J'ai du rythme, j'ai du swing, j'ai le rythme des dancing. La syncope, c'est les coups. Didala, didala, didala. J'ai des rythmes en essence, j'ai des swings 100%. Ça m'agrippe, ça me chip, 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 chip. suite. Quand j'étais toute gamine, pour imiter la sourdine, je me bouchais les narines. Bili 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 bili, wah wah, j'ai du rythme, j'ai du swing, j'ai le rythme des dancing. Dans la peau, j'ai le saxo, j'ai du rythme et j'ai du swing et j'ai du rythme. Ah!
Elle a du rythme et du swing, Marie Bizet et l'orchestre Pierre Chagnon, enregistré le 3 novembre 1941 en pleine période de l'occupation. Une musique maigrisante, pas bien vue ni des nazis ni du régime de Vichy, mais une musique tolérée dans les dancings où s'amusent ceux qui en ont les moyens, occupants y compris bien sûr. Mais de 1940 à 1944, la population française va elle être privée de tout, à commencer de nourriture. Les magasins sont vides la plupart du temps et quand il y a quelque chose, c'est rationné par des tickets. Pour pouvoir manger quelque chose, nombre de Français de la France occupée se mettent à jardiner. Retour sur cette lugubre époque avec ce projet de jardin de l'occupation au potager de la Gloriette, à Tours. Notre prof d'histoire géo Cédric Delaunay revient sur les origines de cette entreprise pédagogique.
Oh bah c'est un partenariat, j'allais dire, d'abord de relations avec le musée de la résistance et de la déportation
de Blois,
avec Laurent Kilikini, l'Office national des anciens combattants, donc Nathalie Baton, Anne de Grieck, qui s'en occupe au niveau départemental. C'est vrai qu'on s'est interrogé sur le sens des commémorations, etc. Et en voyant que ce côté-là de la vie quotidienne n'était jamais évoqué ou de façon très marginale. Et on s'est aperçu effectivement que ce thème était relativement marginal dans les livres. Il fallait piocher en fait dans pas mal de sources différentes et souvent des livres qui peuvent paraître justement anecdotiques et qui ne sont pas reconnus pour leur valeur historique, etc. Mais c'est là qu'on trouve ce qu'on fait le plus de chiffres. Hein.
Finalement, voir les patates avec Pierre Perret de Claude Autant-Lara, c'est pas ridicule.
Finalement, ces films-là sont souvent enfin, un petit peu méprisés, mis à part peut-être La Traversée de Paris, dans lequel on évoque clairement cette question-là. Qui
Allez, on se met un coup de janvier.
Janvier Denis Franck, au d'adieu janvier. Janvier, Denis Franck!
Rien du tout! Je lui casse la gueule!
Janvier, je veux Denis Franck, janvier 45 rue Palimau!
Oui, oui, on le sait! Plus un franc, plus un sou!
Mais laissez-moi le descendre!
Janvier!
Vous n'êtes pas fou? On vous entend partout!
Salaud de pauvre!
Vous n'aurez même pas échappé aux salauds de pauvres hein, de La Traversée de Paris, de Marcel Aimé, qui eut quelques problèmes à la Libération, mais ce n'est pas notre sujet, quoique.
Et Claude Autant-Lara, je crois qu'il a mal fini aussi dans sa vieillesse. Il a eu quelques sympathies malencontreuses.
Hier encore, ces vedettes de l'écran étaient admirées par le monde entier. Mais la célébrité est chose bien passagère. Les vieux films sont aujourd'hui déchiquetés, puis trempés dans des bains chimiques afin d'être débarrassés de leurs images. Et maintenant, la vedette de l'écran qui fut jadis, madame, votre préférée, servira à vous vernir les ongles. Mais oui, vous l'ignorez peut-être, les vieux films servent à fabriquer le vernis à ongles. Mais ce n'est pas tout. Les restes des films vont subir une nouvelle transformation et deviendront bouillis et bientôt cirage. Si vous avez de l'imagination, monsieur, vous devinerez peut-être sur le brillant de vos chaussures le sourire de celle qui vous fit rêver quelquefois.
Dans la joie, nous allons découvrir les vertus et les saveurs des rutabaga, navets et autres topinambours dont nos grands-parents nous ont dit tant de bien.
Ils en pensaient beaucoup de mal, mais on va voir que c'est pas si mauvais que ça, hein. Ça peut même être bon. Faut les préparer un peu quand même.
On va aller voir ça in situ. Alors Cédric, tu le disais tout à l'heure, pendant l'occupation, entre 40 et 44, et même après d'ailleurs, parce que c'est une situation de pénurie qui a duré longtemps, la préoccupation majeure des Français de l'époque, c'est survivre. Tout manque, en fait, pas seulement la nourriture, tout manque. Pendant l'occupation, les Français perdent 50% de leur pouvoir d'achat et en moyenne 10 à 12 kilos par individu. Et puis pour en avoir aussi discuté avec ma grand-mère maternelle, à qui j'avais dit, dis donc, dans la famille, on était plutôt maréchal ou plutôt général ou machin, elle m'a dit, oh bof, mon petit gars, on avait d'autres préoccupations qui étaient surtout de trouver à manger. Il y avait à la maison des enfants en bas âge, le père n'était pas là. Nos préoccupations gravitaient pas tellement autour du maréchal ou du général, mais surtout de trouver quelque chose à mettre dans l'assiette le soir.
C'est une préoccupation qu'on a longtemps oubliée en histoire. C'est-à-dire que finalement, on fait ce que je disais tout à l'heure, une histoire un peu surplombante des choses, et très politisée, etc. Tout en voyant que le quotidien des Français, ça n'a pas été d'être des héros ou des salauds. Effectivement, la première tâche consistait à nourrir sa famille, à éviter les bombes anglaises, à éviter les fusils allemands. C'était compliqué. Moi, mon grand-père racontait toujours que la seule fois où il a eu un problème en fait, avec des gendarmes, c'est quand il avait dû aller à la campagne sur son vélo pour aller chercher du lait pour sa petite fille, parce qu'il n'y avait pas assez de lait. À la ferme, il s'est retrouvé nez à nez avec des gendarmes qui aussi cherchaient des bidons de lait pour leur propre famille. Bon, lui, comme il était un peu grande gueule, il s'est branché avec eux, les gendarmes lui ont demandé ses papiers, etc. Il a dû aller jusqu'à la commandant tour pour aller récupérer ses papiers en justifiant qu'il allait se promener à vélo dans la campagne, qu'il n'avait pas grand chose à y faire si ce n'est faire du, non pas du marché noir, mais récupérer au marché noir du lait. Voilà, ça a été la réalité quotidienne des Français et ça a été la plupart des histoires des Français pendant la guerre.
Les Français doivent officiellement vivre avec 1200 calories par jour, la moitié du minimum. Mais si l'épicier n'a plus de pommes de terre, le quincaillier en a peut-être, et de meilleures. Mais elles valent 5 fois plus cher. L'opération survie est commencée. Paris tourne au ralenti.
En fait, pour comprendre les pénuries, déjà, il faut comprendre que le système agricole français, avant même la guerre, est déjà extrêmement archaïque. Il faut imaginer une France qui ne ressemble pas du tout à la France d'aujourd'hui.
La France est essentiellement rurale.
Oui, oui. Ce qu'on appelle la transition urbaine, en fait, n'est atteinte qu'en 1931. En 1931, c'est là où il y a le plus d'urbains que de ruraux. Mais la France reste un pays très, très rural et très agricole. Par exemple, sur le département de l'Indre-et-Loire, en 1939, il y a un recensement du matériel agricole qui est fait. Il y a 400 tracteurs et 3 moissonneuses pour tout le département, alors que c'est un département vraiment à dominante agricole, plutôt riche. Comparé aux départements agricoles que peuvent être ceux du centre de la France, des marges montagnardes du Massif central, etc. On est dans un département plutôt riche et on se retrouve avec 400 tracteurs et 3 moissonneuses. La force tractée, en fait, ce sont les chevaux encore. 35 000 chevaux et 3 000 ânes et mulets qui servent à tirer les charrues. C'est ça la France de l'époque, c'est des toutes petites exploitations agricoles. La moyenne de superficie, c'est 5 hectares. Donc on a beaucoup de gens qui travaillent avec un matériel très archaïque et qui font essentiellement de l'autoconsommation. Les surplus alimentaires sont déjà, avant la guerre, relativement restreints et la nourriture coûte cher. Je dis des banalités pour les gens qui sont un peu âgés, etc., qui ont vu ça, mais pour les plus jeunes, ça les surprend toujours de comprendre que la nourriture coûtait cher, qu'on ne mangeait pas de la viande tous les jours. Déjà, on est dans une situation relativement précaire. Alors ensuite, qu'on a enjolivé après la guerre, bien sûr, c'est devenu un espèce de mythe de l'âge d'or, c'était formidable, etc. Mais on est face à une France qui est pauvre. C'est un pays qui est pauvre. Une série de déflagrations qui vont faire que le système agricole français va complètement s'écrouler. Et souvent, on dit que ce sont les réquisitions allemandes qui ont entraîné la disette française pendant la guerre. Mais il n'y a pas que ça, parce que ça va continuer très longtemps après la guerre, parce que les quais de rationnement, par exemple, continueront jusqu'en 1947, jusqu'au plan Marshall, où effectivement les Américains arriveront avec leur cargaison de blé, de bœuf, de lait, qui permettront de redonner à manger aux Français correctement.
Alors Cédric, comme tu l'expliquais tout à l'heure, avant même le déclenchement de la guerre en 1940, la nourriture coûtait déjà cher. La viande, le fromage, c'était des luxes.
Oui, c'est-à-dire que l'alimentation courante du Français, ça reste les pommes de terre, le pain et une soupe de légumes plus ou moins variée. Alors bien sûr, il y a des différences selon les niveaux sociaux. Dans les milieux populaires, hein, je ne parle pas de milieux pauvres, je parle de gens qui travaillent, je ne parle pas de gens miséreux. Hein. C'est le quotidien, c'est une soupe un peu garnie avec du pain et un morceau de lard.
Alors peut-être déjà avec une différence entre les urbains et les ruraux. Voilà. On mange certainement plus varié et peut-être mieux à la campagne.
Ça dépend là aussi le niveau social. On tue le cochon, traditionnellement on tue le cochon en décembre, ce qui fournit de la viande qu'on va saler au fur et à mesure, donc on mange plutôt pas mal de viande en période hivernale, mais ensuite ça se restreint. Alors il y a les petites volailles, on mange de la volaille, mais ce qui est significatif c'est de voir les repas de fête, de mariage, etc. Alors aller chercher dans les greniers les cartes de menus de mariage de vos arrière-grands-parents. On mange, mais de façon mais incroyable. Il y a 5-6 plats de viande, etc. Ça marque véritablement la rupture avec le quotidien. C'est-à-dire que ce jour-là, il faut que tout le monde s'en souvienne. Donc on va faire gras, mais vraiment très gras, quoi. On va manger 4-5 plats de viande pour que ça reste dans les mémoires et que ça tranche véritablement avec le quotidien où justement la viande reste en général une fois par semaine.
Dans certains mondes paysans africains ou indiens, quand on marie le fils, la fille, etc., bah on s'endette pour le mariage, pour acheter un mouton, une vache, voilà, pour que les gens, en mangeant de la viande, se souviennent de ce jour-là. Bah en fait, notre France des années 30 ressemble un peu à ce que peuvent vivre certains paysans indiens ou africains.
Oui, c'est ce que je dis souvent à mes élèves. Quand on voit les slums de Mumbai ou les favelas de Rio en leçon de géographie, je leur fais... Tout compte fait, c'est pas si différent de la réalité française de la fin du 19e, hein.
Dire, s'il y a des bidonvilles d'Aubervilliers voilà. De 1945.
Voilà, donc l'insalubrité, le côté précaire de l'habitat, les maladies qui rôdent, on voit ça dans Voyage au bout de la nuit, je veux dire, les fièvres typhoïdes qui massacrent les quartiers populaires dans les années 1930, c'est une réalité qu'on a complètement oubliée. Alors effectivement, les drames de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale ont fait qu'on a une vision un peu mythifiée de cette France triomphante, la plus grande France, le colonialisme, etc. Mais la France était un pays extrêmement pauvre, avec des populations qui avaient déjà du mal à se nourrir. Alors quand va arriver la défaite, c'est un vrai drame.
Français. À l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de la confiance du peuple tout entier, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat.
Donc en 1940, hein, la France connaît une défaite militaire terrifiante en mai-juin 1940, avec une offensive allemande fulgurante, hein, qui conduit à l'armistice, hein, qui est accepté par les Allemands le 22 juin. Sauf que les Allemands ont fait de très nombreux prisonniers. Souvent on a caricaturé l'armée française en désagrégation, mais elle s'est surtout désagrégée à partir du 17 juin. Où là, le front s'est complètement effondré et les soldats ont globalement arrêté de combattre, sauf sur certains points de résistance sur la Loire. Mais les Allemands, entre le 17 et le 22 juin, ont fait des centaines de milliers de prisonniers qu'ils ont emmenés en Allemagne et qui vont rester en Allemagne pendant 5 ans, qui seront libérés en 1945, voire au-delà. Hein. Et c'est autant de bras qui vont manquer dans les champs, mais aussi dans les usines, bien sûr, mais là, on est sur la question agricole. Et donc, les femmes vont devoir travailler... À la place, et comme on est dans une agriculture qui utilise encore beaucoup le moyen manuel et la force musculaire, il va manquer de la force musculaire pour actionner les charrues, ramasser le blé, etc., moudre. C'est le premier problème, c'est le problème humain, il va manquer des bras. Alors on a beau recruter des GTE, hein, des groupements de travailleurs étrangers, alors des Espagnols qu'on a récupérés, des coloniaux qu'on fait venir aussi, hein, avec des choses qu'on a oubliées, hein, par exemple des Vietnamiens qu'on a balancés au fin fond de la Camargue, qui sont tous quasiment morts, hein, ce qu'on appelle les Kongbin, hein, 25 000 personnes transbordées depuis leur Vietnam natal, où ils ont été quasiment raflés, et qui ont été crevés au fin fond de la Camargue, sans alimentation ni quoi que ce soit. Dans nos régions, il y a beaucoup d'Espagnols, hein, des gens de pays neutres comme ça, qui ont été expédiés dans les champs pour aller bosser. Mais on manque de main-d'œuvre.
Que je t'aimerai toujours. Monsieur Scapini, ambassadeur de France, vous parle.
Près de 2 millions d'hommes constituent l'élite et le meilleur de la jeunesse française. Ils sont prisonniers. La France ne peut se relever qu'avec leur concours. L'Allemagne, de son côté, ne peut envisager de rendre ses prisonniers que si un intérêt commun, franco-allemand, se dégage d'une manière claire. Le principe en a été fixé à Montoire. L'intérêt commun des deux pays impose la collaboration pour la grande reconstruction. C'est par la confiance que la France fait unanimement au maréchal Pétain qu'il doit trouver sa traduction.
C'est que par-delà le désastre, un chef a rallumé chez les Français la flamme de l'amour de la France. La France a trouvé dans le maréchal de nouvelles raisons de croire. Elle a trouvé en lui le témoignage de sa survie aux plus dures épreuves, l'assurance de son relèvement dans une Europe plus unie, au sein de laquelle elle aura la place que son passé légitime et que son relèvement garantira. Et cette jeunesse ardente, ouvrière des nouvelles destinées du pays, cette jeunesse qui se donne entièrement au maréchal comme on se donne à un père, a puisé en elle les forces nécessaires pour reprendre le flambeau vacillant. Parce qu'elle a cessé d'être une proie facile pour les idéologies meurtrières importées de Moscou, et que, fière de la France, elle travaille pour que la France, un jour, soit fière d'elle.
C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration.
Une flamme sacrée monte du sol natal et la France enivrée te salue, maréchal. Tous tes enfants qui t'aiment et vénèrent tes ans à ton appel suprême ont répondu présent. Maréchal, nous voilà devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons, nous tes gars, de servir et de suivre tes pas. Maréchal, nous voilà, tu nous as redonné l'espérance. La patrie renaîtra. Maréchal, maréchal, nous voilà. Tu as lutté sans cesse pour le salut commun. On parle avec tendresse du héros de Verdun. En nous donnant ta vie, ton génie et ta foi, tu sauves la patrie. Seconde fois, maréchal, nous voilà, devant toi le sauveur de la France. Nous jurons, nous tes gars, de servir et de suivre tes pas. Maréchal, nous voilà, tu nous as redonné l'espérance. La patrie renaîtra.
Maréchal Pétain parle à la France.
Français, le 17 juin 1940, il y a aujourd'hui une année, j'adressais mon premier appel à la France. Ma voix aujourd'hui s'est raffermie, car la France se relève. Mais bon nombre de Français se refusent à le reconnaître. Croient-ils vraiment que leur sort est plus tragique qu'il y a un an? Français, vous avez vraiment la mémoire courte. Croyez-moi, le moment n'est pas venu de vous réfugier dans l'amertume ou de sombrer dans le désespoir. Vous n'êtes ni vendu, ni trahi, ni abandonné. Ceux qui vous le disent vous mentent et vous jettent dans les bras du communisme. Vous souffrez et vous souffrirez longtemps encore, car nous n'avons pas fini de payer toutes nos fautes. Il me faut votre foi, la foi de votre cœur, la foi de votre raison. Il me faut votre sagesse et votre patience. Vous ne les acquerrez que dans la discipline que je vous impose, et dont seuls les oublieux de notre histoire ou les adversaires de notre unité cherchent à s'évader. Rappelez-vous surtout que vous êtes des hommes, les hommes d'une vieille et glorieuse nation. Ressaisissez-vous, chassez vos alarmes, venez à moi avec confiance. Tous unis, nous sortirons de la nuit où nous a plongé l'affreuse aventure.
Le maréchal Philippe Pétain en 1941 pour illustrer un peu l'ambiance de la France occupée, toujours avec notre historien Cédric Delaunay.
C'est l'époque où l'on planta des graines de tomates dans le jardin du Luxembourg. Faute de tracteurs, d'essence et de main-d'œuvre, la terre était de moins en moins cultivée. Mais jamais on n'a semé autant de radis sur les balcons et de salades en bordure des terrains de football. Cela s'appelait, chaque époque a son style de jardin, les jardins du maréchal.
Donc Cédric, il faut le rappeler, hein, la population française va souffrir beaucoup pendant l'occupation. Cela dit, la France jouit, entre guillemets, entre beaucoup de guillemets, d'une situation d'occupation qui est un petit peu différente. Hein, si on compare par exemple à ce qui se passait sur le front de l'Est, il n'y a rien à voir. Cela dit, la France est littéralement pillée par les nazis. Ça, c'est une chose que j'avais pas bien réalisée, mais en 1944, à la libération, les gens sont exsangues. Il n'aurait pas fallu que l'occupation dure plus. Comme on le disait en début d'émission, les gens ont perdu en moyenne 12 à 15 kilos par individu.
C'est un pillage qui est totalement rationalisé. Alors, il est rationalisé à l'échelle européenne. Très clairement, le pillage se fait en fonction de la vision raciale allemande. C'est-à-dire que les Slaves ne valent rien, donc on va leur piller beaucoup. Les Juifs ne valent plus rien, donc les rationnements de ghetto, effectivement, dégringolent en 1942 et avant d'être exterminés. En gros, il faut fournir la quantité de nourriture nécessaire à la population pour qu'elle soit un peu capable de travailler. Mais la France est dans l'Empire allemand, hein, tel qu'il se constitue en 1942, est très clairement le pays potentiellement le plus riche et le plus producteur de céréales, de biens agricoles, bien supérieur à ce qui se fait en Pologne ou ce genre de choses. Et donc, la France va être pillée de façon effectivement très rationnelle. On estime que les calories disponibles hein, officiellement hein, par français, c'est 1300 calories jour. Pour rappel, ça fait à peu près la moitié de ce qu'il faut consommer pour renouveler ses forces. Ce pillage, alors, il est à destination, un, de l'armée d'occupation, deux, pour ravitailler l'Allemagne, car la grande peur d'Hitler, c'est que se reproduise le même phénomène qu'en 1918, à savoir que la population allemande, l'intérieur, se retourne contre le gouvernement, du fait du manque de nourriture hein, qu'avaient eu à subir les Allemands pendant la Première Guerre mondiale et qui avait conduit, en partie, hein, c'est pas la seule raison, mais qui avait conduit à la révolution qui a fait chuter le Deuxième Reich et l'empereur Guillaume. D'abord la révolution social-démocrate, celle de novembre, ce mécontentement populaire, il va aussi se traduire effectivement avec les divisions du socialisme allemand hein, par la révolution spartakiste de janvier 19. Alors, il y a ce pillage-là à destination de l'Allemagne et de l'armée d'occupation, mais il y a aussi un souci pour le gouvernement de Vichy, etc., c'est le ravitaillement des grandes villes. Alors notamment pour la Touraine, etc., c'est le ravitaillement de Paris. Et donc vous avez une administration centrale du ravitaillement qui est chargée de transférer de l'espace rural et agricole vers les grandes villes, de quoi nourrir ces grandes villes qui subissent des situations de pénurie bien plus alarmantes que les campagnes. Parce que comme on verra, en campagne, il y a toujours les moyens de se débrouiller. Alors, il y a le système D, aller dans les bois, ramasser des glands, on faisait de la farine de glands, on allait braconner le lapin. On m'a même raconté comment on pouvait choper des biches avec des pièges, avec des espèces d'arbres tordus qui permettaient juste de foutre la biche par terre, de l'attraper par le cou et de se débiter une biche comme ça, tranquille. À la campagne, on peut toujours se débrouiller, on peut cacher un peu de nourriture, etc.
Sans braconner, enfin... On peut aussi connaître un fermier, enfin quelqu'un voilà. Qui vous vend des œufs, un bout de jambon.
Voilà, enfin. Cacher une poule, c'est facile. En ville, c'est beaucoup plus compliqué.
C'est ordinaire ce que tu me dis, parce que j'ai fait beaucoup de reportages à la campagne. ça m'arrivait un nombre au cours des années 2000 qu'un paysan, un vieux paysan me dise « Ah là, mais si les Boches revenaient, je sais pas ce que vous feriez en ville. » J'ai entendu ça, tu peux pas savoir combien de fois, cette mémoire vivace de la privation, encore vivante dans les années 2000, 60 ans après. Ou alors quand tu bois un coup avec un paysan après un reportage, ben voilà, ça m'est déjà arrivé d'entendre encore un que les Boches auront pas.
Ah oui, bah ça c'était vraiment mon grand-père. Quand il vidait une bouteille, il faisait toujours ça que les Boches auront pas. Donc, c'est quelque chose qui est resté très prégnant dans la mémoire. C'est pour ça que ce projet me semblait très intéressant, parce que justement, il colle à la mémoire des Français et tout compte fait à leur vie quotidienne. Tout compte fait beaucoup plus que les débats politiques entre giraudistes et gaullistes. Ça leur passait un peu au-dessus de la tête, quoi.
Tiens, d'ailleurs, on va s'écouter cette archive de privation. Vous connaissez tous cette technique qu'avaient les femmes de l'époque pour compenser l'absence de bas nylon.